VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du lundi 7 septembre 2015. Bagassi Kouraï, Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Reprise ce lundi du procès d'Hissène Habré devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar.
Les victimes qui se battent depuis 25 ans et qui ont attendu patiemment encore 45 jours vont finir par croiser le regard d'Hissène Habré devant un tribunal.
7 civils ont été tués samedi dans l'est de la République démocratique du Congo par des rebelles ougandais, des ADF.
Au Burkina Faso, l'ancien opposant et candidat à la présidentielle d'octobre prochain, Ablassé Ouédraogo, porte des recours contre 4 candidats, dont Roch Marc Christian Kabore.
Le projet de loi que Roch Marc Christian Kabore, quand il était président du CDP, président de l'Assemblée nationale, a initié ce même projet qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre.
Le chef des rebelles du Soudan du Sud affirme que son groupe va ratifier demain l'accord de paix signé récemment pour mettre fin à près de 2 ans de conflit dans le pays.
Face à l'afflux massif de migrants en Europe, le pape François appelle chaque paroisse et chaque communauté religieuse à accueillir une famille de réfugiés.
Et bien sûr, vous aurez la minute éco et les sports, c'est dans une dizaine de minutes.
Reprise ce lundi du procès d'Hissène Habré devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Lors de l'audience inaugurale, l'ancien président tchadien, qui est accusé de torture, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, avait refusé de reconnaître l'autorité de cette instance judiciaire et interdit à ses avocats de plaider. À quoi faut-il s'attendre ce lundi? Timothée Donangmaï a joint à Dakar Momar Seydine Diaye, éditorialiste au site internet CNE+.
Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fondamentalement différent de ce qui s'est passé jusqu'ici dans ce procès. Hissène Habré a adopté une stratégie de la chaise vide, donc il ne devrait pas participer. Il n'autorise pas également ses avocats à assurer sa défense. Et apparemment, il n'est pas possible, ni souhaitable en tout cas, qu'il soit forcé d'y assister. Et il va également créer toutes sortes d'entraves pour que le procès ne se déroule pas, en rejetant carrément la défense. Je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement de différence par rapport à ce qui se fait.
La tentative des chambres africaines de commettre l'office des avocats pour le défendre s'est heurtée à des difficultés.
Évidemment, parce que tout simplement, on ne peut pas obliger un prévenu à accepter des avocats qu'il n'a pas choisi. Ça, c'est clair, je pense que c'est un point de droit. Et également, je ne pense pas aussi que des avocats puissent ici prendre le risque d'assurer la défense de Hissène Habré n'étant pas accepté par le prévenu. Évidemment, à ce niveau-là, on peut comprendre effectivement que les chambres africaines aient toutes les difficultés. Et je pense qu'Hissène Habré est en train, malgré ou à cause de lui, de diriger un tout petit peu le procès à sa manière, d'orienter un peu ce procès, parce que tout simplement, il sait ce qu'il attend. Il n'y aura aucune surprise. À la fin du procès, il sera condamné.
7 civils ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo dans une attaque perpétrée samedi par des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. C'est ce qu'a déclaré dimanche à l'AFP un responsable local alors qu'une ONG parle de 9 morts. L'attaque a eu lieu dans l'après-midi à une dizaine de kilomètres à l'est de Mbao, dans le nord de la province du Nord Kivu, a précisé Amissi Kalonda. Il est administrateur du territoire de Béni.
L'Algérie, le Niger et le Tchad ont souligné dimanche à Alger l'urgence d'une solution politique en Libye, pays miné par des violences meurtrières. Selon l'AFP, ces 3 États ont plaidé pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.
Le président béninois Thomas Boigny Yayi, désigné par la CEDEAO médiateur des élections présidentielles et législatives du 11 octobre au Burkina Faso, selon le ministre béninois des Affaires étrangères Saliou Akadiri, sa mission est de faire en sorte que toutes les parties impliquées dans le processus électoral puissent se mettre d'accord pour que ces élections soient libres, transparentes et démocratiques et que les résultats qui en sortiront ne souffrent d'aucune contestation. De quels atouts dispose le chef de l'État béninois? Eh bien, Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Dani Aïda, il est expert en gouvernance pour Africa Label, firme de conseil en développement international.
situer dans un cadre préventif, certainement, mais on se demande évidemment si c'est le bon moment et aussi si c'est la bonne personne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le président Macky Sall du Sénégal qui a été impliqué depuis le début de la transition dans tous les aspects des discussions qui ont conduit à la mise en place des organes de la transition. Et Yahi Boni, peut-être l'homme de la situation si on considère que le Bénin est un pays de référence sur le plan de la démocratie dans la sous-région. Et Yahi Boni est au terme de son deuxième mandat et l'année prochaine, on s'attend à ce qu'il quitte le pouvoir. Donc, de ce point de vue, on peut considérer que c'est un démocrate que les démocrates burkinabés pourraient écouter.
Est-ce que ce n'est pas un peu une mission impossible puisque les avis sont désormais tranchés au Burkina Faso par rapport au processus électoral?
Absolument. Les institutions burkinabées ont une maîtrise assez parfaite et assez totale du processus politique ici. Les lois sont appliquées, les institutions fonctionnent et les différents acteurs se plient aux différentes décisions qui sont prises. Donc, il n'y a pas péril à la demeure actuellement au Burkina Faso. Et il n'y a pas de médiation à mener en tant que telle. Donc, de ce point de vue, on ne voit pas trop quel est le cahier de charge de Yahi Boni dans le contexte burkinabé.
Et au Burkina toujours, l'ancien opposant et candidat à la présidentielle, Ablaïsé Ouédraogo, a porté des recours contre 4 candidats devant le Conseil constitutionnel. Parmi eux, Roch Marc-Christian Kaboré, le candidat du MPP avec qui il a mené le mouvement d'insurrection ayant abouti à la chute de Blaise Compaoré. Mais pour Ablaïsé Ouédraogo, M. Kaboré, ancien président du parti de Blaise Compaoré, est le géniteur du projet de modification constitutionnelle pour un troisième mandat de Blaise Compaoré.
Le projet de loi que Roch Marc-Christian Kaboré, quand il était président du CDP, président de l'Assemblée nationale, a initié ce même projet qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est pour cela qu'il doit être sanctionné.
Pourtant, vous l'avez accueilli, Roch Marc-Christian Kaboré, lorsqu'il a démissionné avec ses camarades du parti de Compaoré pour vous rejoindre dans la lutte contre la modification de l'article 37. Est-ce que le peuple va vous comprendre?
Vous avez tout à fait raison. Mais deux choses. Quand nous accueillons Roch Marc-Christian Kaboré, c'était pour que la lutte contre le président Compaoré soit accélérée. Mais on ne lui a pas demandé de venir être candidat pour la présidence du FASO.
Voilà, c'était Ablaïsé Ouédraogo, opposant burkinabé. Le chef des rebelles du Soudan du Sud affirme que son groupe va ratifier mardi l'accord de paix signé récemment dans le cadre des efforts visant à rétablir la paix et mettre fin à près de 2 ans de conflit dans le pays. L'ancien vice-président Riek Machar a déclaré à la VOA qu'il est attaché à la mise en œuvre intégrale de cet accord, mais il a indiqué avoir attiré l'attention des médiateurs et des dirigeants de la région à propos de la violation continue par le gouvernement de l'accord de paix signé par les deux parties.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à l'afflux massif de migrants en Europe, le pape François a appelé dimanche chaque paroisse et chaque communauté religieuse à accueillir une famille de réfugiés. Comment cet appel a-t-il été reçu? Timothée Donangmai a recueilli le témoignage de Charles Kabeya Mouassé, professeur de sciences politiques, d'anthropologie religieuse et des droits de l'homme à l'Université catholique de Lyon en France.
Le pape a commencé il y a déjà à peu près 6 mois avec l'affaire de Lampedusa à réveiller l'Europe par rapport à ses valeurs chrétiennes et par rapport à l'accueil de l'autre, et notamment de l'autre le plus souffrant. Et puis lorsqu'il est passé aussi à Strasbourg, donc au Conseil de l'Europe, le pape a fait le même message. Et maintenant, c'est se relayer aussi par des politiques, comme l'Allemand de la chancelière Angela Merkel et François Hollande. Mais tous les archevêques et les évêques des diocèses de France, parce que je parle de ce que je connais le mieux, ont relayé aussi cet appel. Et pas plus tard que vendredi soir, à l'archevêché de Lyon, on a eu une rencontre pour ouvrir un peu les portes des uns et des autres par rapport à ce qui arrive. Au-delà de l'affaire que nous connaissons des Roms, qui ont posé aussi un problème d'accueil, mais malgré ça, les chrétiens sont de plus en plus sensibilisés, et au-delà des catholiques même, parce que là où je suis, c'est un ami pasteur de l'église réformée que je suis venu visiter. Dans sa paroisse, ils mettent aussi en place toute une stratégie pour pouvoir accueillir et aider ceux qui sont sur place.
Enfin, au Guatemala, élection générale ce dimanche, les citoyens se sont rendus aux urnes après le scandale de corruption qui a entraîné la démission du président Otto Pérez Molina en fin de semaine dernière.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco Et ce matin, c'est avec Claire Morin-Djibour.
Journée continue au Burkina Faso à partir du 15 septembre. Afin de réduire la facture énergétique et améliorer l'organisation et le rendement du travail, le gouvernement a annoncé un nouveau temps de travail pour les fonctionnaires. Au lieu de faire une pause de 12h30 à 15h, les fonctionnaires burkinabés travailleront désormais de 7h à 15h30 avec une demi-heure de pause. La durée légale de travail hebdomadaire reste de 40 heures. Le gouvernement espère que ce changement facilitera également l'investissement et l'emploi dans le secteur tertiaire. Les cours du cacao et du sucre ont quelque peu rebondi la semaine dernière, après les turbulences subies par le ralentissement chinois. Mais ceux du café sont restés déprimés par la faiblesse de la monnaie brésilienne. Les cours de la fève brune ont été soutenus par une attention accrue des négociants au déficit pluviométrique en Afrique de l'Ouest. Au Gabon, la compagnie pétrolière française Morel & Prom a annoncé vendredi dernier l'arrêt total de sa production en raison d'une situation de force majeure, le percement d'un oléoduc. Le Gabon est le seul pays où la société Morel & Prom produit actuellement du pétrole. La production devrait reprendre d'ici une semaine au plus tard.
C'était la Minute Éco avec Claire Morin-Djibour. Merci Claire. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports et nous retrouvons Élisée Mpatina à Boïcon au Bénin. Élisée.
Oui, bonjour Bagassi.
On commence par du football avec la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 et pas mal de surprises hein, puisque les petits ont tenu tête aux grands.
Effectivement, avec un bon coup réalisé par le Burundi, vainqueur à domicile du Niger 2-0 et le Sénégal qui a pris les commandes dans ce groupe K en allant battre la Namibie 2-0 également. Bonne opération aussi pour le Botswana qui s'est imposé 1-0 sur le Burkina Faso dans un groupe D toujours dominé par l'Ouganda victorieux au Comores sur le même score, 1-0, et c'est le score du Libéria face à la Tunisie dans le groupe A, ce qui profite aux éperviers du Togo, désormais seul leader avec 6 points, puisque vainqueur en Djibouti 2-0. La Mauritanie a défait une Afrique du Sud pas terrible depuis le début de ses éliminatoires, 3-1. Le Cameroun qui est allé battre la Gambie 1-0 est solide leader du groupe avec 6 points.
Et puis Élisée, pour cette deuxième journée, une sélection a même marqué sa jeune histoire.
Il s'agit du Soudan du Sud, Bagassi, qui a obtenu son premier succès en qualification continentale depuis son affiliation à la CAF en 2012 face à la Guinée équatoriale 1-0, ce qui lui permet de prendre la deuxième place du groupe C à un point du Mali qui a tenu en échec le Bénin. Score 1-0 dans un match que les Béninois vont longtemps regretter. Stéphane Sesseyon, capitaine des écureuils.
Il méritait de gagner, mais bon, après, faut pas perdre espoir, faut se dire que non. Il reste encore 4 matchs, donc on va essayer de travailler dans le futur. Au niveau de l'efficacité, on a beaucoup pêché. Après, faut essayer d'améliorer ça dans le futur.
Pour Adama Tamboura, capitaine des aigles, le plus important, c'est de ne pas perdre.
Ça n'a pas été un match facile. Nous aussi, on a essayé de jouer ensemble, de garder l'équipe, essayer de prendre 3 points depuis le premier mi-temps, mais malheureusement, ils ont égalisé. Bon, je pense que l'essentiel a été de ne pas perdre à l'extérieur.
Les autres résultats sont quand même plus conformes à la logique.
Oui, Bagassi, dans le groupe E, le Congo est allé s'imposer 4-2 en Guinée-Bissau, avec à la clé un quadruplé pour Fodé Doré. Le Kenya, lui, s'est incliné à domicile 2-1 contre la Zambie. Le Maroc est allé corriger Sao Tomé 3-0 et partage la tête de son groupe avec le Cap-Vert qui a eu raison de la Libye 2-1. Le Nigeria n'a mieux fait que d'enregistrer un nul de son déplacement en Tanzanie 0-0. Du coup, l'Égypte prend seule la tête du groupe après sa nette victoire au Tchad 5-1. Nul décevant également pour le champion en titre, la Côte d'Ivoire 0-0 à Freetown contre la Sierra Leone.
Et puis notons toujours en football hein, ce début spectaculaire de Didier Drogba avec l'Impact de Montréal, la star ivoirienne lors de son premier match samedi avec son nouveau club a marqué 3 buts conduisant à la victoire de son club l'Impact de Montréal 4-3 contre les Chicago Fires. Et Élisée, faisant un détour à présent par les Jeux africains de Brazzaville avec les derniers résultats et notamment l'escrime.
Une discipline où les pays du nord du continent raflent à peu près tout. Médaille d'or pour la Tunisie au fleuret féminin par équipe et pour l'Égypte au sabre masculin. Seul le titre, l'épée féminine est allé à l'Afrique du Sud. Un rappel, le sacre surprise de l'île Maurice en badminton par équipe grâce à sa nette victoire 3-7-2 sur l'Afrique du Sud. En football, chez les dames, le pays hôte Congo, Brazzaville a pris l'eau face au Nigeria 5-1 et la Côte d'Ivoire a battu la Tanzanie 1-0. Et au niveau des des hommes. Le Ghana et le Sénégal se sont neutralisés 0-0. Un mot de tennis pour finir. Kevin Anderson est pour la première fois de sa carrière en huitième de finale de l'US Open. Le Sud-Africain, tête de série numéro 15, s'est qualifié en sortant l'Autrichien Dominic Thiem en 3-7, 6-3, 7-6, 7-6.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura au micro. Le Monde aujourd'hui, abordons maintenant les dossiers du jour. Au Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré doit reprendre aujourd'hui lundi devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Monsieur Habré est poursuivi pour crime contre l'humanité. Ses avocats avaient refusé en juillet de se présenter devant les juges et la cour avait commis d'office 3 avocats pour assurer sa défense. Idriss Fall a recueilli la réaction de Reid Brody de Human Rights Watch qui est à Dakar en ce moment pour la reprise de ce procès Habré.
Maintenant, je pense que le procès va commencer pour du bon. Les témoins viendront, les preuves seront présentées et la justice se fera finalement. Les victimes qui se battent depuis 25 ans et qui ont attendu patiemment encore 45 jours vont finir par croiser le regard de Hissène Habré devant un tribunal.
Mais en fait, les avocats qui vont assurer sa défense ont été commis d'office par le juge.
Oui, selon la jurisprudence sénégalaise et la pratique internationale, il faut que Hissène Habré ait des défenseurs, qu'il le veuille ou non, qu'il ait un procès équitable. Ces avocats sont commis et pour défendre Hissène Habré et pour assurer la bonne administration de la justice. On aurait voulu que les avocats d'Hissène Habré se présentent, mais comme ils ont choisi de ne pas se présenter, c'est tout à fait normal et ça a été fait depuis le procès Milosevic jusqu'à au Khmer Rouge, il faut qu'ils aient des conseils pour le défendre.
Et s'il se présente et refuse de parler?
Je pense qu'il va refuser de parler, mais qu'il parle ou non, le procès aura lieu.
Mais est-ce qu'on peut juger Hissène Habré sans juger le chef de sa police qui est aujourd'hui le président Idriss Déby Itno?
Idriss Déby Itno était le chef militaire pendant un moment particulièrement sanglant du régime d'Hissène Habré, ce qu'on appelle Septembre Noir. Mais c'était au plus un deuxième couteau dans la justice internationale, que ce soit le procès de Milosevic ou de Charles Taylor. On a l'habitude que les chefs d'État se présentent et comparaissent à la barre. Le fait que les deuxièmes couteaux ne soient pas là n'enlève en rien l'importance du procès de celui qui était le chef suprême.
C'est ce second couteau qui a donné beaucoup d'argent pour que ce tribunal soit mis en place.
Le tribunal est financé par beaucoup de pays. Le Tchad a donné plus que d'autres et je trouve tout à fait normal que le Tchad, le pays le premier concerné, le pays des victimes, le pays qui était ravagé pendant les 8 ans de règne d'Hissène Habré, contribue. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils aient un droit de regard sur le travail ou sur l'indépendance des juges d'instruction qui ont mené une enquête de 19 mois en toute indépendance, qui ont interviewé plus de 2500 victimes et témoins, qui ont ouvert des fosses communes, qui ont commis des experts ont fait un travail colossal et rien ne montre que le procès ne sera pas équitable.
Voilà, c'était Reid Brody, directeur Afrique de Human Rights Watch. Au Mali, les combattants pro-gouvernementaux ont commencé leur retrait de la localité d'Anéfis qu'ils avaient investi le 15 août dernier à la suite de combats contre la CMA, un groupe rebelle du Nord. Après la prise de cette ville, le chef de l'État malien et la communauté internationale avaient demandé le retrait de ces combattants. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré à Bamako.
Après les différentes tractations, c'est le dimanche 6 septembre que les combattants de la plateforme ont commencé leur retrait de la ville stratégique d'Anéfis, une ville qu'ils occupaient depuis le 15 août dernier. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme.
La plateforme décide d'entamer son retrait d'Anéfis. Cependant, elle reste extrêmement soucieuse quant à la sécurité des populations, la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans la région de Kidal. La plateforme garde l'espoir que les autorités maliennes et la communauté internationale internationales prendront les mesures idoines pour préserver les populations des humiliations et des sévices de tout genre dont elles font l'objet de façon permanente.
La délégation de la plateforme est arrivée depuis le 3 septembre dernier dans la ville d'Anéfis. Elle a été confrontée à une mobilisation sociale des femmes et des jeunes de la localité, Sidi Albaka.
Avant l'arrivée de la plateforme, pour entrer à Anéfis, si vous avez un véhicule, vous devriez payer 20 000 francs. Et individuellement, chaque personne devrait payer 1 000 francs. Donc, depuis l'arrivée de la plateforme, toutes ces taxes ont été carrément supprimées. Il n'y a même pas de fouille, tout le monde rentre librement, tout le monde sort librement de la commune d'Anéfis. Les boutiques ne sont vraiment pas alimentées. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'ils amènent beaucoup de marchandises, la SEMA vient, ils prennent tout en crédit et ils refusent de payer.
Avec ces retraits de combattants de la plateforme d'Anéfis, les Maliens souhaitent le cantonnement des combattants des différents groupes armés au nord. Modibo Diaby, fonctionnaire.
Quand on saura même faire la différence entre ceux qui sont au nord pour leur indépendance et ceux qui sont au nord pour des questions de religion, la poire sera bien partagée. On saura avec quelle force frapper. Il y a une paix qui a été signée. Mais dans le fond, tout ce qui se passe, on ne le maîtrise pas. Est-ce réellement des indépendantistes qui sont en train de faire des embuscades à droite à gauche ou est-ce réellement des religieux? Tout ça, c'est à l'interne de l'armée qu'on peut le savoir.
Quant à l'auteur de Sous l'orage et de l'hymne national du Mali, il ne comprend pas la passivité des Maliens devant les attaques terroristes et djihadistes. C'est Doubadjan.
Je ne comprends pas qu'on puisse compter uniquement sur l'armée pour ça, et la population, et les jeunes qui sont dans les villages. On appelle l'armée. L'armée n'est pas là, personne ne réagit. Non, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Il faut mobiliser la population. Il faut nécessairement que les gens s'imaginent chacun que c'est notre problème à chacun de nous. On surveille autour des mosquées. Chacun est concerné, chacun est insulté, chacun est menacé. Il faut que chacun se dise, je dois tout faire pour me défendre.
Avec ce retour à la normale à Anéfis, les Maliens espèrent le cantonnement des différents groupes armés dans le nord du Mali afin de donner un autre élan à l'application de l'accord pour la paix qui tarde à se concrétiser. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Désormais, aucun journaliste burkinabé n'ira en prison pour délit de presse, mais il faudra payer plus cher l'amende fixée entre 1 et 5 millions de francs CFA. C'est là les grands traits de la loi sur le régime juridique des médias votée par les députés du CNT, le Parlement de transition. Zoumana Wonogo est notre correspondant à Ouagadougou.
Marathon, le vote de la loi sur le régime juridique des médias au Faso le fut. La plénière a commencé à 9h et a pris fin aux environs de 19h. Écoutons des avis des journalistes juste après le vote.
Fatou Yannou, journaliste à la radio municipale de Ouagadougou. Demander à la presse aujourd'hui de payer une amende allant de 1 à 5 millions. Je me demande quel média pourra le faire en cas de diffamation. Mais l'avantage est qu'on ne pourra plus emprisonner un journaliste pour avoir diffamé.
Romain Névier, je suis journaliste aux éditions Sud-Ouest. Cette loi, elle est liberticide. C'est même un recul pour la presse burkinabé quand on connaît l'environnement économique de nos entreprises de presse.
Pour le ministre burkinabé de la communication, cette loi a des avancées significatives. Le ministre Frédéric Nikima.
En ce qui concerne les organes de l'État, les directeurs seront désormais nommés par décret encore, mais il y aura un appel à candidature. Et on va travailler aussi à mettre en place un fonds d'appui pour renforcer la viabilité économique des organes de presse. Et le droit d'accès aux sources d'information sont également mentionnés. Les peines privatives de liberté sont supprimées pour être remplacées par des amendes. En ce qui concerne donc le montant des quantums, c'est un consensus qu'on a trouvé en tenant compte des différents acteurs.
En sorte de réplique, voici ce que dit Djiguma Sanogo, le président de l'AJB, Association des journalistes du Burkina.
Le ministre parlait de consensus sur les peines d'amende. Moi, je parle plutôt de coalition entre le gouvernement et les CNT, parce que nous n'avons pas été pris en compte dans ce consensus. L'autre aspect, j'ai trouvé que c'est un travail qui a été bâclé. Qu'un législateur d'attribuer les mêmes impacts à l'oubli de mentionner une mention légale et à une diffamation. Par exemple, un journal a oublié de mentionner le nombre des journaux, des derniers tirages sur les numéros du jour. On dit qu'il doit payer entre 1 à 5 millions. Dans le même temps, on dit que quelqu'un qui a diffamé doit payer également entre 1 à 5 millions.
Le gouvernement avait fixé le quantum des amendes de 10 à 15 millions de francs CFA. Après discussion, il a été retenu le montant de 1 à 5 millions de francs en cas de délit de presse. Lukman Savadogo, le président de la CEP, la Société des éditeurs de presse privée, assure ne pas être dans une logique de réduction.
De 1 à 5 millions, c'est 5 millions, parce qu'il revient au juge de choisir. Donc nous considérons la peine maximale. Nous, c'est la question de dire le montant qu'on prend. Est-ce qu'il est soutenable? Aujourd'hui, on ne peut pas nous démontrer objectivement ce qui plaide en faveur de l'augmentation. Depuis 20 ans, si on peut nous sortir des données qui prouvent que la faiblesse donc, de cette amende-là ou l'existence de cette amende est un élément qui accélère la diffamation.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
RCA, c'est l'incertitude au sujet de la tenue des élections groupées d'octobre et novembre prochain. Quant aux autorités, elles restent optimistes. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Selon le chronogramme de l'Autorité nationale des élections, ANE, le premier tour des scrutins présidentiels et législatifs devrait se dérouler le 18 octobre 2015 et le second tour en novembre. À un mois aujourd'hui de ce délai, les difficultés techniques, organisationnelles et financières laissent planer le doute sur le respect de ce calendrier. Malgré l'optimisme de l'ANE, ces difficultés sont reconnues par son président Dieudonné Kombouyaya.
Le retard accusé aujourd'hui dans le processus est imputable en grande partie à l'insuffisance des disponibilités financières et de l'absence d'un niveau acceptable de sécurité dans certaines régions du pays. Dans un contexte normal, le financement d'un processus électoral relève de la souveraineté nationale. Or, nous ne sommes pas dans un contexte normal. Ce qui se passe aujourd'hui dans certaines parties du territoire n'est pas rassurant. Pour assurer une libre circulation de personnes, notamment celle des agents électoraux, des candidats, des observateurs nationaux et internationaux, des éléments de la presse nationale et internationale, etc.
Les recensements électoraux ont taché de problèmes techniques, de mécontentement d'agents recenseurs revendiquant leurs indemnités, le découpage électoral qui fait encore l'objet de contestations dans certaines localités, le corps électoral non encore convoqué et l'insécurité dans le pays amènent classe politique, société civile et personnalités indépendantes à demander le report de ces élections. Thierry Vaka est membre du Parlement de transition.
J'ai parlé de cela il y a plus de 3 semaines. Il y avait des préalables. Il y a 10 points concernant les préalables. Lorsque ces 10 points ne sont pas satisfaits, naturellement, les élections doivent être reporté. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, ce n'est rien qu'une logique.
De retour de la Suisse et de l'Allemagne, où il a obtenu les prix Sergio Vieira de Mello et d'Aix-la-Chapelle pour la paix, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, appelle les centrafricains au réalisme en optant pour un autre report de la date d'organisation des élections dans le pays. Pour le prélat, les élections centrafriques devraient ouvrir la voie à la paix et non à la guerre.
Si nous n'avons pas tous les moyens, il va falloir que nous puissions honnêtement, raisonnablement, humainement reporter afin que les choses se passent dans la tranquillité, la sérénité.
Pour prouver davantage leur scepticisme quant à la tenue de ces échéances, les plateformes, partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes ont sorti ce 5 septembre 2015 un schéma centrafricain inclusif de sortie de crise. Objectif, préparer l'après 30 décembre 2015, date ultime de prorogation de la transition en cours. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
À Libreville, au Gabon, l'hôtel de ville a lancé une opération d'attribution d'un nom à chaque rue et avenue et un numéro sur chaque maison. L'opération a été lancée officiellement ce week-end sous les yeux de notre correspondant Jean-Rovi Dabani.
Carrefour poubelle derrière la prison, affaires étrangères, trois quartiers. Dans la capitale gabonaise, les moyens d'orientation sont les édifices publics ou les quartiers les plus connus. Mais cette donne pourra bientôt changer. Plus de 50 ans après, la mairie de Libreville a ressorti de ses tiroirs un projet d'attribution des noms et des adresses à chaque rue. Pour une étape emblématique de cette opération, le dévoilement de la plaque de la rue Bernard Mba dans le 2e arrondissement de Libreville. Bengon Eyegué, le maire d'arrondissement, s'est réjoui.
Cette cérémonie n'est pas pour les habitants de notre arrondissement un moment ordinaire. Elle est considérée comme une nouvelle ère pour tous les arrondissements de Libreville. Il y a en effet dans la mise en œuvre de ce projet d'adressage l'élaboration d'un système de repérage plus efficace pour toutes les personnes habitant le 2e arrondissement ou qui sont de passage.
Le but visé, selon Rose Osuka Raponda, la maire de Libreville, c'est d'améliorer les recettes fiscales. Elle pense que cette initiative va bientôt mettre fin à ce casse-tête.
L'adressage de la ville de Libreville apportera notamment une amélioration du repérage et de l'orientation pour les habitants, localisation également des services urbains, une facilitation des interventions de sécurité et d'urgence, telles que les forces de police, les ambulances, les pompiers, etc.
À ce jour, Libreville ne compte que 50 rues avec des noms de personnalités françaises. Certes, le centre-ville bénéficie d'un plan d'adressage, seulement les usagers ne s'y réfèrent toujours pas pour leur orientation. À Libreville, de nombreux quartiers sont enclavés, beaucoup de maisons sont perchés sur des collines, pas d'accès pour les sapeurs-pompiers, les ambulances ou la poste. Les habitants, eux, ne croient pas au succès de l'opération, car toutes les expériences antérieures ont lamentablement échoué. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout donc pour cette édition. Anal Besson a dirigé la mise en onde, présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet, et c'est voafrique.com.